La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand Haine, Hélène Maquet.
Bonsoir à tous, il n'y a plus un franc dans les caisses de la ville de Liège.
C'est honteux, les voitures vont sur le trottoir, font n'importe quoi, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien du tout.
On a attendu que Goldorak arrive, mais comme on n'a pas choisi de le faire, on est toujours dans la merde.
Une ville à l'abandon, une ville sale, une ville pauvre.
Une ville qui croule sous les immondices où les services publics ne tournent plus. Une ville sans argent à qui les banques ne veulent plus prêter.
C'était la situation à Liège à la fin des années 80. Surendettée, la grande métropole wallonne n'a plus réussi à payer son personnel.
En situation de faillite, Liège a connu quelques semaines de chaos, de grèves, de manifestations et même de saccages.
Au cœur de ce tumulte, les socialistes qui dominent la ville, ils se déchirent en clans qui s'invectivent, se menacent mutuellement.
Liège, 1989. En faillite financière et politique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue.
Ah, on se rend donc à Liège cette semaine, dans la ville qui aime rappeler qu'elle est la seule vraie métropole de Wallonie. Liège qui est en pleine renaissance, si vous y avez été ces derniers temps. La gare Calatrava, bien sûr, la Tour des Finances, l'aménagement des quais de Meuse, la Médiacité, le musée de la Bovary. Bon, la liste pourrait encore être un peu plus longue. Bientôt le tram aussi, puisqu'il y a pas mal de travaux.
C'est
pas encore fait. On ne compte plus les investissements publics qui rendent la ville plus agréable à vivre.
Mais Liège revient de loin, de très loin même, puisqu'à la fin des années 80, la ville est tombée en situation de faillite. Plus de sous dans les caisses, plus d'argent pour payer le personnel, surendetté, les banques ne veulent plus payer et la région wallonne refuse de cracher au bassinet sans cure d'austérité drastique.
Et l'homme qui va imposer cette cure, c'est un certain André Coles, grand patron du socialisme liégeois. Mais attention, liégeois de la périphérie de Flémal, il s'oppose rudement aux socialistes de la ville qui vont se déchirer en deux groupes, en deux clans, devrait-on dire. Des divisions qui sont un petit peu obscures pour les non-initiés de la politique liégeoise, mais qui vont culminer jusqu'à l'assassinat d'André Coles et rester profondément ancrées encore aujourd'hui.
On évoquera cette dimension politique, mais on évoquera surtout dans cette émission la situation des finances publiques au niveau local et au niveau régional. Quand on se replonge dans les archives de l'époque, on ne peut que se demander, est-ce qu'on ne risque pas à nouveau la faillite dans des villes comme Liège, même au niveau de la région ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ouais, et pour en parler avec nous, le spécialiste le plus reconnu des finances publiques en Belgique francophone, c'est Benoît Bayonnet. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Bayonnet, vous êtes professeur à l'ULB en finances publiques, vous êtes président du Conseil central de l'économie et vous publiez, ça tombe très bien pour notre émission, un numéro spécial sur les finances wallonnes dans la revue de l'IWEPS, c'est l'Institut Wallon de Statistique. Alors d'abord, une première question, Benoît Bayonnet, est-ce que vous vous souvenez, vous, de ces événements comme ça? Vous étiez assez jeune encore au moment de ces événements de Liège, et vous n'êtes pas de Liège, vous êtes d'Inan.
Oui, donc je ne suis pas liégeois, donc voilà, on ne pourra pas m'accuser d'avoir des a priori sur le sujet. Et en effet, j'étais à l'école primaire, donc dans les événements de 80, en 89, je sortais de l'enseignement secondaire et j'allais rentrer à l'université. Donc en effet, j'ai un peu bouquiné pour pouvoir venir parler avec vous de ce sujet aujourd'hui.
Avec nous également tout à l'heure Christine Defraigne, MR et échevine des finances de la ville de Liège. Mais avant, on retourne en 1989 en bord de Meuse.
octobre 1989. Sur le boulevard d'Avroy, un cortège de 2000 fonctionnaires communaux défile sous le crachin. Les sirènes des pompiers ricochent sur les façades ternes. Les agents de la ville n'ont toujours pas touché leur paye de septembre, car la ville n'a plus d'argent. En colère, un petit groupe d'hommes force l'entrée de l'agence du crédit communal, l'ancêtre de Penfius. Ils font tomber les écrans monochromes des ordinateurs, ils cassent les vitres et mettent le feu à la paperasserie. Les pompiers, présents en nombre, attendent que le feu prenne avant d'intervenir. Après de longues minutes, ils inondent l'agence bancaire de Mousse. Les manifestants applaudissent quand un employé sort avec son vélo, entièrement recouvert par l'épaisse mousse blanche.
Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le siège du PSC, où le rez-de-chaussée et le premier étage ont été saccagés. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Les forces de l'ordre, discrètement présentes, ne sont pas intervenues. Visiblement, la tension est montée d'un cran chez les agents communaux qui ne sont toujours pas payés. Pour certains, cela commence à devenir difficile et il faut s'attendre à d'autres actions dans les prochains jours.
Liège, la plus grande métropole wallonne, n'a plus de sous. Plus un franc pour payer son personnel. Les services publics fonctionnent donc au ralenti et les poubelles s'amoncellent dans les rues. L'odeur rance inonde la ville et repousse les passants.
Parlez-vous mieux. Vous allez mieux me taire. C'est honteux.
Pourquoi vous taire ?
Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de beau quand promenez-vous là dans les boîtes, dans les papiers, dans toutes les crasses que vous voyez ? Rien que ça, c'est déjà la première chose. On ne s'occupe de rien. Les gens, les voitures vont sur le trottoir, font n'importe quoi. Il n'y a plus de police, il n'y a plus rien du tout. Là.
Ben, elle est plutôt catastrophique pour le moment.
Oui, vous savez d'où ça provient ?
Oh, certainement du Parti Socialiste, c'est d'une mauvaise gestion.
Vous dites ça parce que vous êtes dans notre parti ou quoi ?
Non, dans aucun.
Non.
Mais je pense que la gestion a été défectueuse et qu'il faudrait remédier.
Je ne crois pas quand même que tout soit
attribué aux socialistes. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette situation-là existe.
Liège est surendetté depuis le début des années 80. La ville a l'habitude de demander du bois de rallonge au crédit communal afin d'honorer ses dettes. Mais cette fois-ci, la banque refuse, faute d'un plan d'assainissement drastique. Techniquement, c'est la faillite.
Bonsoir à tous. Il n'y a plus un franc dans les caisses de la ville de Liège. En début de semaine, le crédit communal s'est remboursé des 8 milliards prêtés à la ville en 81. 11e jour du mois d'octobre et pas le moindre franc en vue à Liège. Le compte courant de la ville affiche moins 9 milliards. Le personnel communal attend toujours le paiement des salaires de septembre.
Les difficultés de la ville de Liège viennent de loin. Certains les font remonter jusqu'à la guerre. Liège est en effet une des rares villes belges avec Anvers à avoir dû payer elle-même ses dommages de guerre. Autre problème récurrent, la pléthore d'agents communaux. Une inflation d'emplois publics souhaitée par les socialistes pour compenser les pertes d'emplois dans le charbon et dans l'acier. Mais les années 80 sont passées par là. La rigueur budgétaire est de retour. Le crédit communal refuse d'encore prêter de l'argent à la ville. C'est le grand patron de la banque, François Narmont en personne, qui l'annonce.
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité, j'insiste, de ne pas accorder de nouveaux crédits à la ville de Liège.
Le mécontentement grandit parmi les agents communaux liégeois. Vous ne risquez pas qu'il y ait des problèmes de ce point de vue ?
Nous déplorons évidemment tout ce qui s'est passé déjà jusqu'à présent et nous redoutons un peu ce qui pourrait se passer encore, mais nous espérons quand même que dans ce domaine aussi, on restera dans les limites du raisonnable. Je comprends le mécontentement du personnel de la ville de Liège, mais je me permets d'insister sur le fait que, au niveau du crédit communal, nous estimons que nous ne sommes pas responsables de cette situation.
En réalité, le crédit communal veut bien accorder un prêt à la ville de Liège, mais la banque n'a plus confiance. Elle exige un plan d'assainissement. Et elle exige aussi une garantie de la région wallonne. Or, le ministre en charge des communes, c'est un certain André Kohls, l'homme fort du PS liégeois. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas faciliter les choses. Issu de Flémal, commune périphérique de la ville, il reproche à ses camarades socialistes de vivre au-dessus de leurs moyens. Invité de l'émission Faire le Point, l'émission dimanche midi de la RTBF, il ne va rien leur passer. Avec son style inimitable, ses lunettes fumées, sa barbe grise et sa voix ferme et rocailleuse.
Au moment de la fusion, on a augmenté de 2000 fonctionnaires. On a multiplié quelquefois par 3 le nombre d'agents qui auraient été nécessaires pour effectuer certains services. On a organisé une armée mexicaine avec des promotions, des hiérarchies extraordinaires. Et en 1983, dès 83, au moment où la crise est apparue, à ce moment, j'ai eu le tort, déjà, d'être accusé d'incendiaire parce que je sonnais le tocsin, ce qui m'arrive souvent. J'ai dit à mon ami Édouard Kroll, bourgmestre, je lui ai dit, tu iras manger la corde au cou et en robe de bure dans la main de Monsieur Noton. Voilà les termes et il y a des témoins. Donc tout cela, après, c'est leur responsabilité.
La querelle historique entre les socialistes de la ville et ceux de la périphérie éclate alors au grand jour. Un groupe de rebelles se forme, emmené par Jean-Maurice Dehousse, qui refuse le plan d'assainissement imposé à la ville, et un groupe qui se range derrière André Coles. Sa recette est radicale. Il exige de la ville de se séparer de près d'un cinquième de son personnel, un millier de fonctionnaires entre autres, par des mises en disponibilité forcées. Un plan drastique qui se retrouve mis au vote du Conseil communal le 10 octobre.
C'est dans une ambiance particulièrement tendue que se déroulait le Conseil communal de Liège hier soir, avec énormément de monde à l'intérieur de l'hôtel de ville. Bousculades et cris hostiles ont salué l'arrivée des échevins et du bourgmestre qui n'ont pu rejoindre la salle du Conseil que sous la protection des forces de l'ordre.
Pour les socialistes de la ville, il s'agit de mettre à la porte près de 1000 personnes qu'ils ont le plus souvent engagées eux-mêmes. Devant le fameux perron liégeois, les ouvriers communaux sont là pour le leur rappeler.
On m'a toujours dit, rentre à la ville, je travaille dans une usine, je gagnais très bien ma vie aussi. Rentre à la ville de Liège, tu auras une garantie d'emploi.
Qu'est-ce que vous pensez alors de ce qui risque de vous arriver?
Mon risque, c'est...
J'ai l'impression d'être trahi.
C'est une trahison, bien sûr.
Donc on m'a toujours dit, les parents, la famille, c'est une place stable, on gagne pas lourd, mais là, on est sûr de garder sa place. Oui. Apparemment, il en a rien. Hein.
Tu passes ton examen, tu réussis ton examen, tu es nommé par rapport à ton examen. Et puis on te dit, monsieur, 10 ans après, clac, on te tape à la porte.
Qu'est-ce que vous pensez des gestionnaires?
Mais c'est dégueulasse, hein. Et je suis socialiste depuis des années et c'est dégueulasse, ça.
Pourtant, les socialistes sont en principe des
défenseurs. J'ai voté, moi, pour eux, moi.
Cette pression va faire craquer les socialistes. Jean-Maurice Dehousse, ancien ministre président wallon, emmène avec lui 7 conseillers communaux.
À 50 ans, en 1989, au moment où le mur de Berlin croule, on ne va pas me faire entrer en Wallonie dans un système de socialisme roumain.
À cause de cette lutte fratricide, il manque un siège à la majorité pour adopter le plan d'assainissement. Le bourgmestre Édouard Claus est défait.
Dans cette situation que je trouve désolante, dangereuse, et demain sur le plan social explosif, je regrette bien entendu que les voix qui nous ont fait défaut se trouvent dans le groupe socialiste du Conseil communal, c'est clair.
Les rebelles socialistes de la ville font de la résistance, et les syndicats, CGSP en tête, résistent aussi. Mais André Coles ne lâchera rien. La tension monte de jour en jour, comme ce petit matin du 13 octobre. André Coles est l'invité de Liège Matin à la RTBF. La gendarmerie est déployée en force, car des manifestants tentent de forcer l'entrée. Alors André Coles autorise 3 délégués syndicaux à entrer pour une rencontre. Plus étonnant, il autorise aussi les micros et les caméras. La petite salle est mal éclairée. Les cendriers sont remplis. André Coles est avachi dans un fauteuil. Sûr de lui et de sa gouaille de fils d'ouvrier, il passe un savon aux syndicalistes devant les caméras de télévision.
Vous saviez bien que si on avait commencé en 83, il n'y aurait pas eu tout le problème à la ville de Liège. Mais on n'a rien fait. On a attendu que Goldorak arrive. Hein. Mais comme on n'a pas choisi de le faire, hein, on est toujours dans la merde.
Le bras de fer se poursuit. Un syndicaliste tente de reprendre la parole pour dénoncer les licenciements.
Nous ne pouvons donc pas admettre que des agents communaux soient pris en otage avec leurs familles.
Moi, j'aimerais bien aussi, moi, avoir 3000 agents flemmards. Oh, je pourrais travailler, j'ai du travail pour eux deux. Mais les avoir derrière, c'est les payer. Est-ce que vous allez commencer à comprendre que le problème n'est pas d'avoir des agents, c'est qu'ils touchent?
et pour le moment, vous n'avez plus de fric. Et la ville n'en a plus. Alors, vous êtes comme le pendule, hein, avec une chaise en dessous, hein, et de temps en temps, la chaise bascule, hein. Bon.
La leçon de réalisme continue. À l'ancienne, André Coles pointe les syndicalistes du doigt, il les menace comme un boxeur qui ne lâche rien.
Ou bien le secteur public est capable de gérer aussi bien que le privé, et là, alors, je suis pour le secteur public.
Il y a des Anglais qui se plaignent de Thatcher et de sa privatisation. Vous pouvez quand même ouvrir
les oreilles. Oui, mais toi, écoute, t'es mal placé avec ce qui se passe en Russie. On est en train de privatiser en Russie. Alors, regarde un petit peu ton système avant de parler de ça. Hein. Tu ferais mieux de voir, de tenir compte de Gorbatchev. Tu n'as pas encore compris ce qui se passe en Russie. Toi. Tu es encore à l'époque stalinienne, toi. Tu ne sais même pas que Gorbatchev est arrivé. Tu ne sais même pas ta Rochefort. Alors, ça suffit. Bon. Donc, les intercommunales, est-ce qu'il y en a un qui dit le contraire? Mais, dans des conditions où on ne va pas retransférer aux communes périphériques les charges que vous ne avez pas payées là, et j'ai payé à Flémal 205 millions en 5 ans de déficit hospitalier. Et on sait bien qu'on avait trafiqué les comptes, que l'on faisait passer là-dessus l'homme du protocole, le tapis rouge de la CPS. Et j'ai payé mal le déficit du CPS, mal géré comme tout le monde sait.
À l'ancienne, au charisme et surtout au rapport de force, André Coles finira par s'imposer à la CGSP et aux rebelles de la ville de Liège. Une semaine plus tard, au conseil communal, les voix des libéraux permettront de se passer des rebelles socialistes et la ville se sépare de près de 1000 agents. Le problème de la dette n'étant toujours pas réglé, elle sera finalement intégralement reprise par la région, permettant le redécollage de la ville qu'on observe aujourd'hui. Quant aux divisions nées lors de ce bras de fer, elles pèseront, encore jusqu'à aujourd'hui, au sein du socialisme liégeois. Elles feront dire à Guy Spitals, président alors du Parti Socialiste, avec la Trinité, la fédération liégeoise du PS constitue un des grands mystères de la création.
La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Benoît Bayonnet, on le rappelle, professeur à l'ULB, président du Conseil central de l'économie, grand spécialiste des finances publiques. Quelle réflexion vous inspire cette histoire de la faillite de Liège, de cette dette qui s'emballe, des banques qui ne veulent plus prêter et puis des employés qui ne sont plus payés?
Évidemment, on pourrait faire une comparaison avec aujourd'hui, hein. Donc, la fin des années 80, c'est aussi la succession des crises des années 70, du début des années 80. En termes de finances publiques globales pour la Belgique, il faut garder à l'esprit que c'est un déficit public à deux chiffres, hein. Aujourd'hui, on s'inquiète d'un déficit public à 5,6 ou un peu plus pourcentage du PIB. À l'époque, on dépassait largement les 10-15 points de PIB avec une dette publique qui va s'emballer, qui va, au début des années 90, approcher les 130 points de PIB.
On est à 110 aujourd'hui.
On est à 110 aujourd'hui, donc et à côté de ça, à l'époque, les taux d'intérêt sont à deux chiffres, l'inflation est aussi importante, il y a des comparaisons intéressantes à faire, et on connaît évidemment à l'époque l'effet boule de neige de la dette publique, donc cet effet de non-soutenabilité de la dette, dont tout le monde craint évidemment qu'elle ne réapparaisse aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on était sur un vrai problème de finances publiques, et donc de manière globale au niveau belge, alors qu'on n'était pas encore tout à fait dans une régionalisation. Hein. Gardons bien à l'esprit qu'on met en place les régions au début des années 80, mais le budget des régions c'est, et des communautés d'ailleurs, c'est 10% du budget de l'État central, puisqu'on n'est pas encore dans un État fédéral, on ne le sera qu'en 1993. Donc on est dans un début de régionalisme, donc c'est encore très fort l'État fédéral, évidemment, même s'il y a un début de régionalisation des pouvoirs locaux, mais on est encore dans un modèle qui est très central, évidemment, et on a un vrai dérapage des finances publiques. Alors, si je voulais faire un calque, et c'est ça qui m'inspire, c'est que aujourd'hui, il est encore temps de réagir. Donc,
On
n'en est pas encore là.
Ça, c'est le résultat de ce qui peut arriver si on n'y a pas d'action.
Voilà. Donc, les dangers sont là. On sait que les taux d'intérêt vont augmenter, qu'il y a un risque de non-soutenabilité des dettes publiques. On y reviendra certainement tout à l'heure. Il y a des grands enjeux en termes de pensions des pouvoirs locaux. Mais on peut encore prendre des mesures. La seule chose, évidemment, c'est où je peux faire peut-être une comparaison, c'est que par rapport aux années 80 et cette période difficile, c'est que de nouveau, l'argent ne tombera pas du ciel. C'est vrai que parfois, dans les années 2000, dans les réformes de l'État, on s'est dit l'État fédéral va venir aider les régions vont venir aider les pouvoirs locaux. Aujourd'hui, tout le monde est dans le rouge, et très très fort dans le rouge, surtout du côté francophone. Donc là, on doit vraiment maintenant développer une vraie réflexion sur qui fait quoi et quels moyens on attribue à chaque compétence. Je pense malheureusement qu'on est à un tournant de l'organisation de nos finances publiques et de nos politiques publiques pour mettre la priorité à l'endroit où c'est le plus utile, parce qu'on ne peut pas continuer, évidemment. On est un des pays européens où le niveau des dépenses publiques en pourcentage du PIB est parmi les plus importants. Donc on ne peut pas dire qu'on est en austérité, certainement pas. C'est vrai qu'on vient de traverser deux crises. La crise Covid, évidemment, plus cette crise liée à la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'y ajoute, qui ont justifié, évidemment, des politiques publiques et d'activer, évidemment, les dépenses publiques pour soutenir l'économie et le pouvoir d'achat. Mais on a peut-être atteint un seuil et il faut maintenant réfléchir à qui fait quoi.
On va développer certains des éléments que vous venez d'avancer, mais avant peut-être, retour à Liège, si je peux m'exprimer comme ça, avec l'échevine actuelle des finances de la ville de Liège, c'est une libérale, Christine Defraigne. Je lui ai demandé d'expliquer un petit peu les raisons qui ont conduit la ville à être à ce point en difficulté à la fin des années 80. On l'écoute.
Alors, les difficultés, elles remontent à loin. Déjà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Liège comme Anvers doit se relever des bombardements, puisque ce sont deux villes d'importance stratégique, et l'État qu'on n'appelait pas encore fédéral à l'époque, a choisi de ne pas financer leur reconstruction, puisque l'État considérait que les villes avaient cette capacité d'emprunter de manière autonome. Et donc c'est le début des grands emprunts et de l'engrenage de la dette qui s'enclenche. Et donc à titre d'exemple, j'ai fait un petit peu d'archéologie. En 1945, la dette de Liège était de 773 millions de francs belges. En 1954, elle s'élève déjà à 2,8 milliards et atteint 5,5 milliards en 1964. Et puis, dans les années 70, est arrivée la fusion des communes. Et en 1976, Liège était de loin la plus grande ville de Wallonie et la seule qui assumait déjà à l'époque une réalité urbaine significative avec 142 000 habitants. Et lors de cette fusion, Liège a été la seule entité de Wallonie dont la dette n'a pas été reprise par l'État. Alors, c'est dans un contexte compliqué, les fusions 76 et en 80, le gouvernement a accepté que la ville continue à recourir à l'emprunt. Et les premiers plans d'assainissement, plans de gestion, qu'on les appelle comme on veut, ont commencé en 81. Mais surtout, ce qui s'est passé après le premier choc pétrolier au début des années 80, quand la crise du charbonnage et de la sidérurgie est arrivée, la ville de Liège, pour amortir cette crise qui nous a touchés de plein fouet, a eu une politique d'engagement massif. Et par exemple, en 83, il y avait 7961 équivalents temps plein à la ville de Liège. Il y avait même une petite plaisanterie qui circulait, c'est que il y avait tellement d'agents à la ville de Liège qu'il n'y avait pas assez de chaises pour les asseoir autour du bureau. Et puis progressivement, on est passé à un peu plus de 4000 en 2001. Aujourd'hui, on est à 2899 équivalents temps plein au cadre, mais comme on a gelé un certain nombre d'engagements, nous sommes en dessous.
Alors, Benoît Bayonnet, on entend qu'à l'époque, il y a des problèmes historiques de financement de la ville de Liège, il y a la fusion des communes, il y a évidemment la crise de l'époque 70-80, vous l'avez décrite tout à l'heure, qui a fait un effet boule de neige. Mais il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'agents communaux à Liège. Est-ce que cette réalité-là, elle existe encore aujourd'hui? Est-ce que, pour le dire simplement, on a une fonction publique, un appareil d'État qui est beaucoup trop volumineux? Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, on ait ce type de solution mise en disponibilité, mise à la pension, voire licenciement?
Donc le premier élément de comparaison, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, pour passer la crise des années 70 et 80 et les restructurations, notamment au secteur sidérurgique en Wallonie et particulièrement à Liège, on a utilisé l'emploi public pour un peu atténuer la crise. Alors on peut évidemment ex post toujours faire des analyses critiques. À l'époque, ça a évité aussi un bain social, évidemment, et une catastrophe peut-être sociale encore plus grave. Évidemment, on en a vu les conséquences après. Depuis lors, on a quand même fortement réduit le personnel dans les communes, et donc il y a une réduction importante du personnel qui aujourd'hui, et c'est un des problèmes d'ailleurs pour le financement des pensions, c'est qu'il n'y a plus assez de statutaires dans les communes, donc on ne cotise plus suffisamment que pour payer évidemment les pensions des gens qui arrivent à la retraite. Donc
c'est
on
plus
a
l'armée mexicaine, si je reprends le terme d'André Coles, là, l'armée mexicaine. C'est plus comme ça dans les villes et les pouvoirs publics wallons ?
Non, ça s'est fortement réduit. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans les communes, qu'elles soient petites ou grandes, on a un grand problème de complexité aussi de la fonction au niveau communal, hein, que ce soit au niveau juridique, d'aménagement du territoire, etc. Donc il y a un vrai problème d'avoir les compétences nécessaires pour monter les dossiers parce que tout s'est fortement complexifié. Et donc l'encadrement, entre guillemets, du collège, mais aussi du conseil communal pour pouvoir mener à bien un certain nombre de dossiers. Et on voit à quel point à Liège, aujourd'hui, il y a des grands chantiers. Mais il faut aussi, évidemment, un personnel compétent. Et pour recruter ce personnel compétent, ben, il faut aussi, évidemment, avoir les moyens de le recruter et de recruter aussi les meilleurs. Donc, à la rigueur, on est plutôt dans un problème aujourd'hui d'aller chercher, évidemment, les compétences pour gérer tous ces dossiers. Donc, cet équilibre n'est pas facile non plus à trouver.
Vous disiez qu'on est dans un moment où la fonction publique, les institutions doivent pouvoir réfléchir à où elles placent leur argent parce que, effectivement, on est dans un moment où on peut se retrouver face à des difficultés financières au niveau des institutions publiques. La solution ici, à Liège, d'André Coles, ça a été de licencier un cinquième du personnel. Si je vous entends bien, ici, c'est plus possible de faire ça. C'est quoi alors les options ?
Je pense qu'ici, on doit avoir une vraie réforme, et elle doit, une vraie réflexion, mais elle doit avoir lieu entre le fédéral, les régions et les communautés, entre les régions et les pouvoirs locaux et les provinces par ailleurs. Maintenant, qui se concentre sur quoi ? Pour vraiment rationaliser les compétences, ça ne veut pas dire rationaliser le personnel, parce qu'aujourd'hui du travail, il y en a. Je pense qu'il y a des rôles très importants à jouer, mais maintenant il faut se concentrer sur le niveau de pouvoir qui est le plus approprié et arrêter de faire des doublons, parce que malheureusement il y a des doublons entre les communes, les provinces, la région, entre les communes et les communautés. Parfois les uns sont venus supplier les carences des autres, mais ce qui fait évidemment aujourd'hui que parfois il y a des inefficacités, du gaspillage d'argent public.
Mais est-ce que là, on ne risque pas de se retrouver... Alors, effectivement, on gagne des moyens parce qu'on rationalise sur les compétences, mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on ne licencie pas de nouveau ? Est-ce qu'il n'y a pas, alors, ce risque que vous évoquiez d'un bain social dans la fonction publique qui mènerait à des difficultés économiques plus globales ?
Je pense que quand on va rationaliser, alors peut-être que des gens doivent accepter de passer d'un titre de fonction publique à un autre titre de fonction publique. À un moment, il faudra aussi cette mobilité. On a besoin des bonnes personnes au bon endroit et que chaque niveau de pouvoir se concentre évidemment sur le niveau le plus approprié par rapport au service qu'il doit rendre aux citoyens. Donc la question, est-ce qu'il faut encore que les communes s'occupent d'enseignement ? La question est ouverte. Est-ce que les communes doivent s'occuper de développement économique et de tourisme dans une région qui est quand même pas très très grande ? La Wallonie, est-ce que ça n'aurait pas de cohérence à remonter ça à un niveau supérieur et que les communes s'occupent évidemment plus des compétences régaliennes, des compétences directement au contact des citoyens. Donc c'est une réflexion qui doit se mener, c'est pas un combat de l'un contre l'autre, c'est qui doit faire quoi et quels moyens on leur octroie. Alors il y a tout le problème aujourd'hui, le financement des zones de secours, des zones de police, on sait que c'est évidemment un service essentiel aux citoyens, où là la compétence évidemment est partagée. Mais dire que le fédéral va tout refinancer demain, aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le fédéral, il est dans une impasse budgétaire, on l'a encore entendu cette semaine à de nombreuses reprises sur le débat sur le budget, donc les marges de manœuvre, elles sont très faibles. Donc à un moment, dire qu'on va encore agrandir l'enveloppe, ça me semble un peu compliqué, il faut plutôt voir comment on peut faire mieux. Avant de parler, moi je ne parle pas d'assainissement, je parle d'une meilleure organisation, entre guillemets, des politiques publiques et des finances publiques, dans l'enveloppe dont on dispose aujourd'hui.
L'histoire continue sur la première.
Alors, cette situation critique de la ville de Liège en 1989 risque-t-elle de se reproduire? Vous disiez tout à l'heure, Benoît Bayonnet, pas qu'on n'en était pas là, hein, cet effet boule de neige de la dette, mais qu'on commence quand même à s'interroger sur la soutenabilité des finances publiques, surtout au sud du pays. J'ai interrogé donc Christine Defraigne, échevine des finances à Liège, sur ce terrain-là. Et vous allez l'entendre, elle n'est pas rassurante. Oui, on n'est pas à l'abri de ce genre de faillite à l'avenir. On la retrouve.
Allez, je vais vous répondre honnêtement et sans langue de bois. Je n'exclus pas qu'on renoue avec ce problème. Ce qui s'est passé, c'est à la fois une histoire qui a enclenché un poids de dette qui n'a cessé de s'alourdir au fur et à mesure des emprunts accordés. Un bon nombre ont été contractés dans les années 80 à des taux d'intérêt absolument exorbitants. Et puis, ce qu'on vit et ce qu'on supporte toujours, malgré des mesures qui ont été prises même au début des années 2000, c'est un déséquilibre structurel de la caisse des pensions. Si je fais le total entre 2019 et 2027, hein, et ça a commencé en 2013, on est en 2019 et 2027, projection, à 442 millions 200 000 euros pour un budget qui est, grossissimo modo, bon an mal an, de 650 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Et depuis 2013, c'est plus d'un an, finalement, si on additionne les différents montants, plus d'un an budgétaire consommé. Mmh. Rien que pour les pensions, je veux dire, actuelles. Ce que je veux dire, moi, le message que je veux envoyer, au-delà du constat et du diagnostic, bon, ben, un médecin, il fait un diagnostic, je crois que le diagnostic, je le pose sans phare et je dis la vérité aux patients, quels sont les remèdes. Je pense aussi que des réformes importantes doivent intervenir. Notre plan de gestion en comprend certaines, mais les réformes, elles ne sont pas qu'au niveau de la ville de Liège. Mmh. Il faut que les francophones balayent devant leur porte. Et si je vois des réformes, je vais prendre un exemple. Je sais que c'est tabou, je sais que c'est iconoclaste, je sais qu'il y a un pacte scolaire de 58 qui a quand même coûté quelques dizaines de milliards ou quelques milliards à l'ensemble des budgets, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'enseignement officiel. Mais il faut, à l'intérieur de l'enseignement officiel, que les réseaux fusionnent. Je pense vraiment qu'au niveau francophone, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau de la région, hein, il y a l'erreur tragique des francophones de ne pas avoir fusionné les deux. On va se retrouver en 2024 au pied du mur, avec une attrition des pouvoirs publics, avec des revendications flamandes. Je ne dis pas que tout est rose, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, flamand, rose chez eux, mais des revendications flamandes importante, avec un confédéralisme, une septième réforme de l'État qui se profile à l'horizon, qu'on le veuille ou non, et nous, on n'aura pas fait le ménage chez nous.
Voilà, elle est assez inquiétante comme ça, Christine Defraigne. Alors, il y a deux éléments, Benoît Bayonnet. D'abord, vraiment, avec le professeur de l'ULB, elle explique cette charge des pensions qui ne cesse d'augmenter et qui fait un peu boule de neige au sein du budget de la ville de Liège. Peut-être un petit mot là-dessus, sans être trop technique, mais pourquoi est-ce que les pensions sont aujourd'hui un problème à Liège, mais je crois dans d'autres villes wallonnes, quasiment incommensurables?
Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression, évidemment, que tous les fonctionnaires sont payés par l'État fédéral en termes de pension. Ce qu'on oublie souvent...
Il faut le rappeler déjà, parce que ça, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas.
Voilà, ouais, donc
même des fonctionnaires locaux,
régionaux et fédéraux sont payés évidemment par l'État fédéral, même s'il y a une contribution maintenant pension de la part des régions et des communautés qui n'est pas mince non plus. Mais au niveau des pouvoirs locaux, ils doivent assumer totalement la charge. Donc l'État fédéral ne vient pas suppléer. Donc il y a une solidarité au niveau de tous les pouvoirs locaux, ils doivent assumer la charge totale des pensions des pouvoirs locaux. Donc c'est un système à part en termes, évidemment, aujourd'hui, de financement et de charges. Et alors on a un revers, évidemment, de cette, entre guillemets, politique du personnel qu'on a menée pendant un certain nombre d'années, puisque on a, évidemment, pour éviter la surcharge de personnel et les coûts, on n'a plus nommé. Donc il y avait de moins en moins de statutaires et de plus en plus de contractuels, mais ceux qui cotisent étaient évidemment, enfin les deux cotisent, mais ce qui se passait, c'est que souvent on nommait en fin de carrière, entre guillemets, ce qui permettait
d'avoir
à la personne d'avoir la pension de vrai fonctionnaire et pas de contractuel. Sauf qu'on n'avait pas cotisé assez. Et donc la caisse n'était pas assez remplie, n'est pas assez remplie, et donc le taux de cotisation et de responsabilisation pension, c'est pour ça qu'elle a parlé tout à l'heure, Mme de Fresne a parlé de responsabilisation, a augmenté pour arriver à équilibrer le modèle. Ce qui devient aujourd'hui impayable pour un très grand nombre de communes. Donc là, le cri d'alerte est vrai, et le résultat de politiques passées, et là il y a une vraie réflexion à mener, parce qu'on sait que ce problème, il existe dans les communes, il existe dans certains hôpitaux publics ou dans certains hôpitaux qui étaient publics et qui viennent évidemment aujourd'hui pénaliser très,
surtout,
très fortement le financement.
En Wallonie et à Bruxelles, encore plus qu'en Flandre, parce qu'il y a une dimension communautaire là-dedans. Mais alors j'en viens à la deuxième partie, Benoît Bayonnet, de l'intervention de Christine de Fresne. Elle dit on n'en s'en sortira pas si les francophones ne font pas des réformes majeures et ne se préparent pas à négocier avec les Flamands. Voilà, en gros, hein, je résume.
Oui, mais donc la Flandre a volontairement, dès les années 80, évidemment, décidé de regrouper la communauté et la région, et donc de faire bénéficier les deux institutions de l'ensemble des recettes, même si institutionnellement, il y a toujours deux parlements, même si on parle que le parlement de la communauté flamande, ce n'est pas toujours les mêmes parlementaires qui votent, mais il n'y a qu'un budget, et les recettes sont mélangées et permettent de mener toutes les politiques publiques. Il ne faut pas oublier qu'en Flandre, ils ont osé réformer les provinces, donc ils ont repris une partie des compétences provinciales, notamment tout ce qui était matière personnalisable des communautés. Ils ont réduit, ils ont récupéré une partie du pouvoir fiscal des provinces. Donc ils ont ralenti le rythme d'augmentation de la dotation des communes en échange aussi de reprise de compétences. Donc ils ont fait des choix aussi au nord du pays. Donc la critique évidemment de Madame de Fresne qui est logique, c'est que maintenant il faut aussi entre francophones qu'on balaye devant notre porte et dire comment on peut améliorer le modèle pour faire des économies d'efficacité, entre guillemets, dans nos politiques publiques et éviter les doublons.
On entend bien redessiner le modèle, revoir l'architecture institutionnelle, rationaliser. Et puis on entend à côté Christine de Fresne qui dit proposition iconoclaste, fusionner les réseaux, etc. On entend bien que si on veut redessiner l'architecture institutionnellement, politiquement, ça peut créer des dramas comme à Liège. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que politiquement... on est prêt à ça?
Ah ben, je veux dire, à un moment, la contrainte, elle est là. Hein. Donc, la communauté française. Je sais que je vais pas faire plaisir à tous mes amis enseignants. Donc, c'est pas. Je vais pas dire que eux sont trop bien payés, mais globalement, le budget consacré à l'enseignement, en comparaison avec nos voisins, il est plus important. Donc, est-ce qu'on met beaucoup d'argent dans l'enseignement? Oui. Alors, est-ce qu'il est mal dépensé? A priori, oui. Puisqu'on voit les résultats en termes d'efficacité, de résultats scolaires, de mal-être des enseignants, de vétusté des bâtiments. Donc il y a un problème dans l'organisation. Ce n'est pas un problème de financement. D'ailleurs, la communauté, on l'a refinancée en 93, on l'a refinancée partiellement en 99, on l'a refinancée en 2001, on l'a partiellement refinancée en 2014.
Tout ça demanderait du courage politique. Est-ce que là, au niveau wallon, au niveau des communes, il y a ce courage politique de réformer en profondeur?
Je pense que la contrainte financière, alors soit on attend et on va connaître les mêmes problèmes que dans les années 80, soit on se dit il est temps d'agir et on commence à faire des réformes de structure qui nous permettent d'économiser. Parce qu'il y a aussi une chose qui a changé, hein, c'est que la crise financière, elle est passée par là en 2008-2009. Alors on peut évidemment critiquer les banques qui deviennent craintives et qui n'osent plus prêter, mais la régulation financière et les règles prudentielles qu'elles doivent appliquer pour éviter qu'on ne reconnaisse l'épisode d'Exia, notamment, c'est que maintenant, elles doivent être beaucoup plus prudentes. Et donc, quand elles ont, évidemment, un client potentiel qui peut s'appeler une commune, une région, un État, où il y a des risques de soutenabilité et de non-remboursement, elle est obligée de prendre des précautions, de réduire son exposition, sinon elle doit avoir davantage de fonds propres, ce qui n'est pas toujours possible pour elle. Donc le monde aussi, à ce niveau-là, il a changé. Donc, et les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc
les pouvoirs publics vont être un peu poussés à la réforme. C'est un peu votre message. Mais alors si je peux prendre peut-être une dimension un peu plus politique. Ici, on a entendu le personnage central, André Kohls, comme ça, avec sa personnalité très forte. On se dit quand même que ce genre de parole publique, où quelqu'un ose dire... on est dans la merde, hein. Bon, voilà, je reprends ça. Ça existe plus tellement aujourd'hui que on a plutôt le langage, notamment la région wallonne. Tout va bien, on est un exemple même. Bon, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la parole publique n'est pas au niveau de ce que vous, comme expert, vous lisez dans les comptes?
Donc vous avez en partie raison. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on sort de deux crises. Enfin, on n'avait jamais connu la crise Covid, où on a, si on m'avait un jour dit qu'on arrêterait partiellement la machine économique, ben je vous aurais dit c'est de la science-fiction. Donc on l'a fait. Tout le monde a pensé que la machine économique ne redémarrerait pas. Et peut-être à tort, on a fait trop de plans de relance et trop de mécanismes d'aide. Mais évidemment, c'est toujours facile évidemment d'analyser ex post. Mais aujourd'hui, une partie de l'augmentation de l'inflation et l'emballement de la machine économique fin 2021, elle est liée au fait qu'on a trop rebooster l'économie. Et puis, il y a la crise ukrainienne qui arrive, qui redevient une crise du pouvoir d'achat, avec un risque de récession, même si les derniers chiffres de la BNB semblent montrer que l'économie belge est en train de résister. Donc, on est dans un climat, aujourd'hui, évidemment, où il faut être quand même prudent. Ce n'est pas le moment, évidemment, de couper dans tout, mais c'est le moment peut-être de réfléchir. Parce que l'échéance suivante, voilà, notamment au niveau européen, on commence à reparler de gouvernance budgétaire, donc les règles vont revenir tout doucement à l'ordre du jour. On peut espérer qu'on va sortir de cette crise énergétique et qu'on va retrouver un modèle stable. Je ne sais pas ce que c'est en termes économiques. Hein, si on regarde les 15 dernières années, c'est difficile d'avoir des modèles stables. Mais quelque chose avec un rythme moins frappé par des crises tous les ans ou tous les deux ans. Et donc, c'est le moment de se dire maintenant, quel est le modèle? Quel est le modèle pour la Belgique à l'horizon 2030? Surtout qu'on a une échéance quand même qui est non négligeable, c'est la décarbonisation. Donc, on s'est tous engagés, et tous les enjeux climatiques, la sécheresse de cet été, enfin les catastrophes naturelles, on sait qu'on doit faire évoluer le modèle économique à l'horizon 2030, c'est 50% de décarbonisation. Alors, on parle souvent de 2050 avec zéro, mais si on arrive déjà à faire 2035 ans, ça sera déjà un très très grand pas, et on va avoir besoin de moyens publics. Beaucoup d'investissements publics pour aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics à organiser cette transition. Donc on doit retrouver des marches. Et donc c'est là où l'enjeu pour moi est essentiel, c'est de se dire comment dans les dépenses déjà actuelles, on va être capable de se dire maintenant je fais des choix pour préparer l'avenir. Pour préparer, l'avenir c'est dans moins de 10 ans. Hein, donc on ne parle pas de la génération suivante, on parle même de la génération qui est là. Ouais. Et donc là c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on prenne conscience. Alors, on a commencé avec ce qu'on appelle « spending review », donc les évaluations des politiques publiques. Évidemment, en pleine législature, c'est difficile d'aller dire à un ministre, maintenant, on a analysé, là, tu devrais évidemment supprimer une partie de tes politiques. Les spending review, il faut les mettre en œuvre à une nouvelle législature, mais donc, a priori, tous les rapports sont là. Il faut que le gouvernement wallon suivant, maintenant, prenne, entre guillemets, à bras le corps, toutes ces évaluations et disent, ben maintenant, pour le prochain gouvernement, on sait où il faut réévaluer les politiques publiques.
Ouais, il y a un défi majeur pour les finances publiques, dans le sud du pays en particulier. Hein. Ça, je crois que c'est quand même ce qu'il faut retenir, Benoît Bayonnet, de cette affaire de la ville de Liège, pour éviter qu'on se retrouve peut-être au niveau régional et plus seulement au niveau d'une ville avec des situations aussi difficiles. Merci d'avoir été notre invité, Benoît Bayonnet. Je rappelle que vous êtes professeur notamment à l'ULB et président du Conseil central de l'économie.
Merci beaucoup.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation, Jonathan Remy.